installé, on va commander cette heure au Seigneur. Ô Dieu, nous sommes si reconnaissants d'être encore dans cette belle nature. C'est toi qui en es l'auteur. Et nous en comprenons le langage. Tu nous parles de ta puissance, de ta beauté, de ton amour. Et nous voulons te demander que, dans un cadre pareil, nous puissions entendre ta parole et qu'elle nous marque et que son souvenir demeure tellement dans nos mémoires que le Saint-Esprit puisse, dans notre vie quotidienne où nous sommes confrontés journellement à tant de difficultés, que ton esprit puisse nous rappeler cette parole et qu'elle soit lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier, et que tu nous rappelles constamment la marche de Jésus, afin que nous entrions dans l'empreinte de ses pas, et que le monde s'aperçoive que comme lui est, nous sommes dans ce monde, en cette fin d'un âge, pour ta seule gloire, en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on pourrait leur dire d'aller ailleurs que dans la salle? Mais ce qui importe surtout pour nous, c'est le texte que nous reprenons moment après moment. Et je crois que il était bien nécessaire que nous nous arrêtions sur ces femmes qui ont tellement aimé Jésus, qu'elles ont fait même des choses qui étaient contraires à sa pensée. Mais Jésus ne les a pas punies pour autant, parce qu'il savait qu'elles aimaient, qu'elles l'aimaient, bien le Père des cieux, comme nous le disions, à envoyer des anges pour les éclairer. Et je trouve que c'est tellement précieux que même dans nos erreurs, au lieu que nous recevions un châtiment à cause de nos erreurs, tout ce que Dieu désire, c'est de nous éclairer. Mais alors, si nous sommes éclairés, il nous faut marcher. Et alors, quand on est éclairé et qu'on veut marcher, c'est les difficultés qui commencent. Et j'espère que c'est au moins cela que vous avez retenu, malgré ma faiblesse. Quand elles sont allées pour parler, ayant été éclairé divinement sur le fait de la résurrection, que qu'il avait dit, c'était accompli, elles ont trouvé comme obstacle des croyants. C'est les croyants qui ont fait obstacle d'abord. Et c'est presque toujours ce qui arrive. Si vous voulez manifester votre amour pour le Seigneur, même d'une façon imparfaite, et que le Seigneur vous éclaire, et qu'étant éclairé, vous voulez rendre témoignage, eh bien, les premières déceptions que vous aurez, ce sont des gens que vous pensiez vraiment être au point pour vous comprendre. Ah non, c'est eux qui ne vous comprennent pas. Et c'était quelque chose de très dur pour ces femmes, mais c'est toujours de l'actualité. Que le monde ne nous comprenne pas, ça passe, hein. Mais que des chrétiens, des croyants qui ont eu le même enseignement, nous prennent pour des rêveurs, ça fait mal. Et alors on voudrait se taire, on ne dira plus rien. Et c'est là le danger. Parce qu'il faut continuer à annoncer aujourd'hui une parole qui n'est pas moderne. C'est la parole qui a été dite une fois pour toutes. Et c'est pourquoi j'ai été conduit vraiment, je le crois, parce que je ne fais pas ça pour moi, à prendre cet épître de Jude qui vient en confirmation de tout ce que nous voyons dans le chapitre 24 de Luc. Cette petite épître de Jude, je dis cela pour ceux qui n'étaient pas là la première fois, le premier jour, nous avons pris les deux premiers versets pour introduire notre culte dimanche. Et nous avons vu que Jude, justement, l'auteur de cette petite épître, n'était autre qu'un des frères du Seigneur. Je ne peux pas revenir dans les évangiles, vous trouverez tout ça dans l'évangile. Un des frères du Seigneur, comme Jacques, l'auteur de l'épître de Jacques, bien Jude était un des frères du Seigneur, qui ne croyait pas en lui, comme nous le lisons dans le chapitre 7 de Jean. Les frères de Jésus ont été les premiers à ne pas croire en lui, que ce soit des parents proches, cousins, comme le prétendait l'Église romaine, ou que ce soit réellement des fils de Marie qui seraient venus après Jésus. Mais nous n'avons pas à discuter de cela, ni à nous disputer là-dessus. Si Marie n'a pas eu d'enfant après Jésus, pour certaines raisons, si Joseph est allé plus loin que la respecter totalement, ça ne lui a rien enlevé, et puis, ça ne lui a rien donné non plus. De sorte que, puisque le Seigneur nous dit que ses frères ne croyaient pas en lui, on peut donc pencher pour le fait que Marie aura eu des enfants après Jésus. Mais si ça scandalise complètement un croyant catholique qui pense que, après avoir eu Jésus, elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants à la manière humaine, bien s'ils veulent croire ça, c'est leur affaire. Mais ne nous arrêtons pas sur ces questions-là. Elles ne font que diviser, elles n'ajoutent rien. Ce qui compte, c'est que Jésus devienne précieux pour nos cœurs. Alors ce Jude, qui ne croyait pas en Jésus durant sa vie, s'est converti après la résurrection de Jésus. Ce qui est encourageant aussi pour chacun de nous dans nos familles. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Et il est devenu un serviteur de Jésus-Christ. Il ne s'est pas glorifié, il ne dit pas « je suis le frère de Jésus ». Il reste serviteur de Jésus-Christ. Il s'intitule le frère de Jacques, pour bien se situer quand même. Ce Jacques qui était le responsable de l'église de Jérusalem, après le départ de Pierre. Et on a vu qu'il s'adressait à des individus qu'il appelle des appelés, on a insisté sur ces mots, appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et puis gardés pour Jésus-Christ. Et ça introduisait notre culte de reconnaissance. Nous avons été appelés. Et alors, ayant répondu à cet appel, si nous avons répondu à cet appel, qu'est-ce que nous avons appris? Eh bien que nous étions introduits dans l'amour du Père, appelés par Dieu, nous avons répondu, et puis maintenant nous apprenons à connaître que nous sommes aimés en Dieu. C'est quelque chose d'absolument merveilleux, d'être aimé en Dieu, qui est un Père. C'est par Jésus que nous connaissons le Père et que nous cessons d'être des orphelins. Aimé en Dieu le Père. Voyez, chaque mot dans la parole a une valeur et une force extraordinaire. Mais cela vous montre qu'en dehors de Jésus, on ne peut pas connaître le Père. Le Père n'est connu que par Jésus. Mais une fois qu'on est en Jésus, qu'on a reçu Jésus, qu'on a répondu à son appel, on entre dans cet amour du Père, qui est un Père juste, saint, un Père bienheureux et qui nous rend bienheureux. Et puis, nous apprenons aussi que la prière de Jésus, qu'il a faite pour nous, a toute sa valeur, car nous sommes gardés au travers de ce monde, nous sommes gardés pour Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Pour quel moment? Pour que quand Jésus-Christ paraîtra, il puisse nous présenter. Donc notre salut est total. Nous sommes gardés pour Jésus-Christ. Et alors, si vous avez été appelé, si vous êtes conscient, vous êtes bien aimé du Père, et si vous êtes assuré que jusqu'au bout vous serez gardé, parce que Jésus a prié pour vous, comme il avait prié pour Pierre, il avait dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc il ne doit pas y avoir défaillance dans votre foi à cause des circonstances. Au contraire, quand les circonstances difficiles se présentent, votre foi doit grandir. La foi ne fait que grandir dans les épreuves. C'est dans un temps d'épreuve que notre foi grandit. Quand tout va bien, on s'en occupe pas beaucoup de la foi. Mais quand on est dans la difficulté, dans la détresse, peut-être qu'alors on se met à crier. Et j'étais bien frappé, et ça a frappé aussi le laitier, quand ma femme a dit, il n'y a plus de lait, hein, vous vous souvenez, ça vous l'avez vécu, les enfants l'ont vécu aussi. Et c'était pénible de dire qu'il n'y avait plus de lait. Et puis à ce moment-là, le lait était là. Alors j'ai dit à cet homme qui me dit, bien, j'ai été votre messie au sujet du lait. Alors, il a dit, réponds aux sauces sans sa folie, ou ne réponds pas aux sauces sans sa folie. Ce n'était pas une sottise qu'il disait, parce qu'il voit bien ce qu'on fait ici. Alors, il a parlé du Messie, lui. J'ai été le Messie au sujet du lait, j'ai dit oui. Et la parole a été exaucée, vous connaissez ce texte. Avant qu'il crie, je répondrai, pendant qu'il parle, j'exaucerai. Eh bien, ça c'est dans le livre du prophète Ésaïe. Il a eu un beau sourire. Il y avait correspondant. Il faut savoir comment répondre. Eh bien oui, si vous avez été appelé, si vous avez conscience d'être aimé en Dieu le Père, qui prend soin des petits-enfants qui ont besoin de lait, eh bien, vous serez aussi gardé. Croyez que vous êtes gardé par Jésus-Christ. Et alors, le verset suivant, qui est le souhait que Paul fait, que la miséricorde, la paix et l'amour, trois choses, étaient très frappants. Dans les autres épîtres, quand une épître, que ce soit de Paul ou de Pierre, est adressée à une collectivité, il n'y a pas la miséricorde. C'est la grâce et la paix qui sont données. Hein. Deux choses, la grâce et la paix. Mais quand c'est à un individu, il est ajouté la miséricorde. Lisez les épîtres à Timothée. Paul écrit à Timothée qui est un individu. Eh bien, les individus ont besoin, en plus de la grâce et de la paix, qu'est-ce qu'ils ont besoin? De la miséricorde. Individuellement, vous avez besoin de miséricorde. J'espère que vous le comprenez, et je le comprends avec vous. Je sais que je suis un être qui a besoin de miséricorde. Mais justement, aimé en Dieu, je sais que mon Dieu, c'est le Père des miséricordes, de toutes les miséricordes. Eh bien, cette miséricorde, c'est l'immensité de son amour, sa pitié pour nous. Il se souvient de quoi nous sommes formés. Il se rappelle que nous sommes poussière. Et que même si nous faisons des erreurs, eh bien, il y a auprès de lui un avocat, Jésus-Christ le juste. Et quand nous confessons nos erreurs, quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. N'est-ce pas merveilleux? Alors, vous pouvez avoir une miséricorde multipliée. Vous pouvez avoir une paix multipliée. Et nous en avons besoin dans ce temps-ci. Hein. La paix multipliée. C'est pas la paix avec Dieu. Vous l'avez, la paix avec Dieu. Mais c'est la paix dans la marche. C'est la paix dans les circonstances. Au lieu d'être troublé par les épreuves, on dit, Seigneur, comment vas-tu t'y prendre pour me sortir de là? Mais on va tout de suite au Seigneur. Et on reste dans la paix. Parce que si vous n'êtes pas dans la paix, vous n'êtes pas un témoignage. Si dans l'épreuve, vous êtes agité, troublé, le monde s'en aperçoit, vous ne rayonnez pas, alors que la paix vous soit multipliée. Et nous sommes dans un temps où nous avons besoin de paix. Mais alors, comme le dit Saint Paul, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. On ne comprend pas qu'on puisse rester dans la paix. Vous êtes dans la paix, puis vous êtes dans cette épreuve-là. Et oui, parce que je m'attends au Seigneur. Vous attendez au Seigneur. Est-ce qu'il va vous répondre? Alors, il y a toujours ces doutes qui vous viennent, et souvent aussi des chrétiens. Et c'est pourquoi on a toujours, et c'est très frappant, chez des religieux qui vous disent « Aide-toi, le ciel t'aidera. » Hein, faut pas toujours s'attendre à Dieu. « Aide-toi, le ciel t'aidera. » Puis je crois que c'est un verset biblique. Quand j'ai enseigné pendant 2 ans à l'Institut Paul VI, puisqu'on m'avait demandé de faire ce travail, chez les catholiques, quitte à ce que les évangéliques me haïssent, peu importe, eh bien, on dit un tas de choses sur mon compte parce que j'enseignais des jeunes catholiques, avec l'appui des autorités ecclésiastiques, eh bien, peu importe, puisqu'on me donnait l'occasion de prêcher, de parler. Mais mes amis, ça valait la peine, mais nous avions besoin vraiment de cette miséricorde, de cette paix et de l'amour. Que l'amour vous soit multiplié. Que l'amour vous soit multiplié. Et ce qui m'a été donné il y a 2 mois, quand j'étais au Cap de la Madeleine, j'ai rencontré une femme qui me dit, vous savez, moi je suis catholique, mais mon fils a été enseigné par vous à l'Institut Paul VI. Et il m'a dit tout ce que vous aviez donné. Et elle va maintenant aux réunions au Cap de la Madeleine. Eh bien, ça montre que quand on sème la parole, c'est la parole qui reste. Et cette parole, elle est transmise. Alors, dans vos milieux, dans vos circonstances, eh bien, prenez ce vœu que nous avons accepté pour le début de notre temps. J'ai besoin de la miséricorde, j'ai besoin de la paix, c'est le meilleur remède contre le stress. On nous parle tout le temps du stress, et on est tout le temps stressé. Quel est le remède? La paix. Mais c'est une paix qui surpasse, comme le dit Saint Paul, je l'ai cité, toute intelligence. Ça dépasse en fait. Comment est-ce que je peux être dans la paix? Elle se passe toute intelligence. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nos cœurs et nos pensées sont si souvent troublés par tout ce qu'on entend dire sur nous, de nous. Mais ça, c'est aucune importance. Quand on dit du mal de nous, on ne le dit pas des autres. C'est déjà quelque chose. Il faut au moins se réjouir. N'est-ce pas? On laisse la paix aux autres. Eh bien, gardons cela, c'est une grâce qui se tait sur les autres. Que l'amour vous soit multiplié. Et c'est là notre grand danger. Je l'ai réalisé pour moi-même et je le réalise pour moi. Si mon amour baisse pour la personne du Seigneur, ça ne va pas. Ce qui peut me tenir, c'est un amour personnel pour le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a constaté au début déjà de l'Église primitive, dans l'Église qui était la mieux enseignée et qui était l'Église d'Éphèse, quel est le reproche qu'il a fait? Tu as des œuvres, tu fais bien des choses, mais j'ai contre toi que tu as abandonné le premier amour. Et voyez-vous, le premier amour, c'est pas un grand sentiment qu'on a produit. Le premier amour, qui c'est qui nous a aimé le premier? C'est Dieu. Le premier amour, c'est l'amour de Dieu qui a été versé dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit. C'est son amour. Le premier amour, c'est l'amour de Dieu. Et quand on a été mis en face la première fois de l'amour de Dieu, on a été tellement saisi qu'à cet amour, notre amour a répondu. Ça, c'était le premier amour. Une réponse à l'amour de Dieu. Qui est le premier amour? Et alors, évidemment, on s'habitue peut-être, et nous avons toujours besoin de revenir à ce premier amour. Et quand est-ce qu'on a eu la révélation vraiment de l'amour de Dieu? C'est quand on a été convaincu de péché et qu'on a vu combien le Seigneur Jésus nous a aimés en mourant sur la croix. De sorte que pour retrouver le premier amour, nous avons besoin de retourner à la croix. non pas pour être sauvés à nouveau, mais pour voir combien Dieu a pu nous aimer alors que nous étions des impies et des pécheurs. Et alors nous sommes saisis, nous sommes renouvelés dans cet amour. Parce que vous savez, ça sera très simple dans le jugement. Le Seigneur nous demandera simplement ça, as-tu aimé? C'est ça le grand commandement de Dieu. As-tu aimé? C'est ce qu'avait compris saint Augustin. Nous serons tous examinés sur l'amour, un seul commandement. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la réalisation visible et pratique de ce premier commandement. Dieu, on ne le voit pas, mais je vois mon prochain. Et c'est pourquoi hier soir, j'essayais de dire aux enfants que le petit frère ou la petite sœur, hein, c'était le prochain et que c'était cet enfant-là qu'il devait aimer comme si c'était Jésus. L'enfant doit être vu comme si c'était Jésus. Et nous, parents, nous devons voir en nos enfants, non pas seulement tous leurs défauts, tous leurs manquements, mais nous devons voir Jésus. Ces petits qui sont mes frères, disait Jésus. Apprendre à nos enfants à voir en d'autres enfants Jésus. Ça change tout. Et ça change leur relation. Et ça leur montre comment ils peuvent aimer. Et l'objet qu'ils ont à aimer, il n'est pas au fond du ciel. Parce que dire à un enfant qu'il doit aimer quelqu'un qui est au fond du ciel, c'est difficile. Mais lui montrer qu'il peut aimer, oui, cet enfant qui est là, parce que dans cet enfant, il y a Jésus, qui a été un enfant. Oh, que le Saint-Esprit aille plus avant dans tout cela. Et c'est des vérités tellement profondes que je sentais bien que Satan essayait de paralyser pour que ça ne puisse pas entrer. Et pourtant, ça est entré. Voilà ce que nous avons vu un peu dimanche matin qui nous conduisait vers le culte d'adoration. Ensuite hier, bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, là nous avons la raison de cet épître. Jude, frère du Seigneur, converti, a à cœur des âmes et voudrait leur parler de la richesse de ce salut. Et nous avons souligné que le salut, c'est quelqu'un. Le salut, c'est pas quelque chose. Le salut, c'est Jésus. C'est la personne de Jésus. Et c'est toujours ça qui doit être devant vous. Et nous avions montré qu'à l'âge de 40 jours, quand Siméon, le vieillard, qui avait reçu une révélation, qui ne mourrait pas sans avoir vu le Seigneur, quand il a pris l'enfant dans ses bras, ce petit enfant qui avait que quelques jours, 40 jours, à la purification de Marie, tes yeux ont vu, mes yeux ont vu ton salut, ton salut. C'est le salut de Dieu. Du reste, Jésus veut dire salut. Tes yeux ont vu mon salut. Alors maintenant, je peux aller en paix. Vous voyez, quand on a vu Jésus, on a la paix. Mes yeux ont vu ton salut. Une lumière pour les nations et la gloire d'Israël. Et quand Israël reconnaîtra que Jésus est leur sujet de gloire, ils auront la délivrance, pas avant. Mais pour arriver à reconnaître ça, nous savons qu'ils doivent beaucoup souffrir et ils le savent aussi. Ceux qui croient. Alors, Jude voulait écrire à ses âmes une lettre édifiante au sujet de ce salut commun que nous a apporté Jésus, qui est notre justification, le pardon de nos péchés, tout cela fait partie du salut. Et tout ce que nous avons en Jésus, il est notre berger, notre avocat si nous avons péché, il est notre souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités, parce qu'il a été un homme, il sait ce que c'est que souffrir, il sait ce que c'est qu'être fatigué, Il sait ce que c'est que dormir et d'être réveillé en plein sommeil. Alors qu'il était fatigué, pour une fois qu'il était couché, lui qui a été couché dans une crèche, une autre fois il est couché dans un bateau, et là, couché dans ce bateau, on vient le réveiller au sein de la tempête. Ne te mets-tu pas en peine, Seigneur, nous périssons. Comme si on pouvait périr quand le Seigneur est dans la barque. La barque peut être agitée, mais le Seigneur est dedans. Et s'il peut vous arriver une catastrophe, aucun malheur n'arrive au juste. Ce sont des dispensations de Dieu qu'il permet pour nous former. Mettez la souffrance dans votre programme. C'est dans le programme du chrétien. Mais alors, demandez à Dieu sa force toute puissante pour pouvoir non pas faire de grandes choses, mais avoir un témoignage qui l'honore et tout souffrir pour lui. Eh bien, tout cela vous est promis. C'est le souhait de l'apôtre, de Jude, du serviteur de Jésus-Christ. Mais il dit, je voulais vous parler de toutes ces choses édifiantes, mais je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Dans l'Église primitive, il y avait déjà un combat à mener pour garder une foi pure dans les vérités qui leur avaient été transmises par le Seigneur, qui leur avait dit, ce que je vous dis, mon enseignement, il ne vient pas d'une école de ce monde, pourquoi il n'a pas été aux écoles de ce monde, mon enseignement, il vient de mon Père. Ce que je vous dis, je l'ai appris de mon Père, directement dans le ciel. Ce que je vous annonce, c'est ce que j'ai vu faire par mon Père. Ce que je fais, je le fais parce que j'ai vu faire par mon Père. Et c'est lui qui m'a commandé de vous dire les choses comme je vous l'ai dit. Donc vous pouvez prendre la parole du Seigneur comme étant la parole même du Père. Il n'a pas changé quoi que ce soit. Il ne s'est rien attribué à lui, il a transmis. Et si nous nous disons serviteurs du Seigneur, nous n'avons pas à élaborer nous-mêmes une doctrine, nous avons à transmettre ce qui nous a été dit. Ça a été dit une fois pour toutes, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Vous avez cela au début de la Bible, vous avez cela au centre de la Bible. N'ajoute pas à ces paroles de peur que tu ne sois trouvé menteur. Alors ça élimine tout ce qui n'est pas de l'Écriture. Et puis, maintenant, c'est à la fin de la Bible, celui qui ajoutera ou celui qui retranchera aux paroles de ce livre, eh bien, c'est le jugement qu'il atteindra. Une fois pour tous, vous pouvez recevoir la parole. Et ne dites pas, mais nous ne sommes plus dans le temps d'Abraham. Nous ne sommes plus dans le temps d'Abraham. Vous croyez qu'Abraham n'a pas eu des épreuves? Vous croyez que c'était facile de quitter l'Irak pour s'en aller là où on ne savait pas où? Et puis arriver là où il est en Israël, il y a une famine. Bon, qu'est-ce que Dieu a fait? Je me suis trompé, il y avait du pain là-bas en Irak. Puis maintenant j'arrive ici, près de Sichem, sous les chênes, il y a la famine. Alors qu'est-ce qu'il pense? Ben, il sait qu'il y a du pain en Égypte, et sans consulter Dieu, eh bien il descend en Égypte. Mais c'était une erreur, il n'avait pas à descendre en Égypte. Dieu ne lui a pas dit d'aller en Égypte. Le Seigneur était là et pouvait lui donner du pain, là. Mais non, on décide soi-même que nous voulons, oui, être toi si elle t'aidera, puisqu'il y en a, ben je fais encore un bout de voyage. Mais ce bout de voyage, il était de trop. C'est toujours les œuvres mortes. Mais c'était pour nourrir sa famille. Il avait un tas de raisons. Nous avons des raisons humaines, et ça ne tient pas devant Dieu. Il nous faut faire entrer Dieu. Pourquoi est-ce qu'on voit... On voit si peu Dieu dans notre existence, c'est parce qu'on n'est pas exercé. On ne va pas directement à lui. On cherche d'abord d'autres moyens. Eh bien, revenons à cela. Abraham, oui, il est allé en Égypte. Puis qu'est-ce qu'il a ramené? D'abord, ça l'a fait mentir. Puis, on a découvert qu'Abraham était au fond un menteur. Il a trompé le pharaon a piqué une colère terrible contre lui, Mais enfin, comme il est quand même généreux, pour qu'il s'en aille, il lui a donné tout ce qu'il voulait. Des biens, etc. Puis une petite servante par-dessus, qui allait devenir sa maîtresse. C'est terrible, hein, qui arrive quand on veut faire notre volonté, oui. On a des délivrances, mais on a aussi des pièges qui vont se manifester. Et cette pauvre Sarah, qui attend depuis tant d'années, et qui sait que maintenant elle ne peut plus avoir d'enfants, ce que les femmes avaient l'habitude d'avoir, ou ont l'habitude d'avoir, c'était fini pour elles. Alors elle se dit, aide-toi, qui t'aidera. Je vais lui donner la petite servante. Et puis, j'aurai un fils, mère porteuse. C'est tout moderne. Une mère porteuse. Puis ça donnera Ismaël, qui deviendra l'ennemi, jusqu'à maintenant, du peuple de Dieu. Quelle chose. Et vous voyez, tout cela, nous devons le comprendre. Car il s'est glissé parmi vous, verset 4, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Donc il s'est glissé parmi vous dans l'église. Il est entré des personnes qui ont corrompu la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous disions hier encore. La grâce est venu par Jésus-Christ, c'est vrai, hein. Mais avec quoi? Avec la vérité. Alors n'oubliez jamais ça. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pas seulement la grâce, mais la vérité. Parce que si vous n'avez pas la vérité, eh bien, la grâce, vous allez la corrompre. Dire, mais tout est grâce, on peut tout faire. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La grâce nous enseigne, nous l'avons souligné, beaucoup plus que la loi. Mais c'est tout différent, parce que la grâce vient de l'amour. Tandis que la loi, c'était une règle rigide, froide, qui nous oblige, qui nous contraint. Puis comme notre nature est contraire, tandis que quand on a changé de nature, parce qu'on a accepté Jésus, on a une nouvelle nature, et on l'a reçue par grâce, alors on sait ce que c'est que la grâce. Mais on sait aussi que Jésus n'est pas seulement grâce, qu'il est vérité. Alors, on reste avec la vérité. Mais voilà, il y en a qui avaient changé la grâce de Dieu en dérèglement et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Et notre ami m'a dit, bien, il m'a donné une coupure du journal de hier. En me disant, ça va tomber juste avec ce que nous allons voir. Et en effet, dans un instant, je vous le dirai. On renie le seul maître, Jésus-Christ. Mais on vient au renion. Mais la seigneurie de Christ n'a pas d'autorité sur nos cœurs. On fait comme tout le monde. Puis, suivant les conducteurs que nous avons, tout est permis. À un tel point qu'un jour, il n'y a pas longtemps que cela, c'était le mois passé, quelqu'un est venu me dire, j'ai cherché une église où je pourrais être recueilli, mais je n'en ai pas trouvé jusqu'à maintenant. On dirait qu'on est, quand on va dans un culte, dans une discothèque. Tellement la musique est forte, du rythme, des petits cantiques à n'en plus finir, on s'exalte. Je dis, on monte en fusée, hein. Qu'on ne se pose pas sur son orbite. Et alors, là c'est la catastrophe, on retombe. Et on se brise. C'est quand même catastrophique, mais c'est ça. C'est de l'actualité. Et puis, on ne sait plus adorer, parce que on chante, on ne sait plus ce qu'on dit. Et on n'a pas fini de chanter qu'il y en a un autre qui indique des gens chantent. Alors, c'est du remplissage. C'est pas une adoration. Oh, que, avec mon ami Jean-Roger, qui était un catholique pourtant, mais un vrai frère pour moi, à Jérusalem, certains l'ont connu qui sont venus, hein. Il est auprès du Seigneur. On pouvait être silencieux ensemble. Et prier aussi en silence dans sa petite chapelle de Beersheba. il y avait encore cette notion du silence, de la prière dans le silence. Puis alors, c'est dans le silence que le Seigneur nous instruit. On entend des choses qui nous viennent dans le cœur. Puis si on doit parler, ce n'est pas un effort intellectuel. C'est le cœur qui est rempli, puis ça monte sur nos lèvres. Puis on dit quelques mots qui viennent du Seigneur. Et alors on voit qu'on peut apprendre de tous nos frères. De tous ceux qui aiment le Seigneur. Ce qui compte, voyez-vous, c'est quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est pas son étiquette. J'entends encore une des dernières paroles de mon père. En tout cas, je n'emmènerai pas une étiquette au ciel. Hein? Vous allez emmener votre étiquette au ciel pour pouvoir retrouver le bon groupe. Est-ce que c'est à un groupe que vous êtes d'abord attaché ou bien à la personne du Seigneur? C'est la personne du Seigneur. Et voilà. La deuxième partie que nous allons juste voir maintenant, ce sont les versets 5 à 7. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu que on se réclame encore du Seigneur, oui, mais sa seigneurie, elle n'est pas sur nous. On n'obéit pas à sa parole. C'est pourquoi j'ai écrit cette petite brochure, connaissance ou obéissance. On connaît ces vérités. Mais on dira, c'est plus pour nos temps. C'était au temps du Seigneur. Puis alors, vous avez des théologiens qui vous disent, mais jamais Jésus n'a dit ça, c'est ses apôtres qui ont construit tout cela. Tous les évangiles, c'est pas Jésus qui a parlé, c'est ses apôtres qui ont construit les évangiles. Alors on enlève l'autorité de la parole. C'est ce qui m'afflige le plus. Maintenant que le catholicisme a autorisé la lecture de la Bible, vous avez des théologiens romains et qui cherchent à détruire l'autorité de cette Bible. Quand la Bible était fermée pour les catholiques, on respectait le livre. On l'ouvrait pas, hein, mais on avait du respect pour le livre. C'était le livre. Beaucoup avaient un livre, un grand livre. C'était la Bible. Hein. On respectait le livre. Maintenant qu'il est ouvert, on a des réunions, des fins de semaine bibliques pour détruire la Bible. Dans le sens qu'on vous dit, oui, il y a des choses intéressantes, mais on va enlever les mythes. Tout ça, c'est des mythes, ça, c'est des contes, tout ça, c'est des rêveries. Et un homme avec qui j'ai travaillé un temps, et qui est aussi maintenant, je pense, auprès du Seigneur, parce que il y a un témoignage qui doit être rendu. Eh bien, il enseignait à l'Université de Montréal, et il disait à ses élèves, vous savez, si vous rencontriez Jésus dans la rue Sainte-Catherine, puis que vous lui disiez, est-ce que c'est vrai que tu as dit je suis le chemin, la vérité et la vie, il le bourrirait au nez. Et il vous dirait, je n'ai jamais dit ça, c'est mes disciples qui ont raconté ça. Alors, quand des étudiants en théologie entendent cela, comment voulez-vous après qu'ils prêchent en croyant? Comment voulez-vous? On fait de nous des incrédules. Et vous savez bien combien c'est grave d'être incrédule, de ne pas croire la parole. Alors on vous dit, oui, mais il faut savoir ce qui est parole de Dieu dans la Bible. Alors, il faut faire des études pour savoir ça. Ce que vous pouvez admettre comme parole de Dieu. Et notre cœur est tellement tordu, hein, qu'on admettra ce qui nous plaît. Mais tout ce qui nous déplaît, tout ce qui pourrait nous gêner, ou amener sur nous de la critique, non, c'est plus pour notre temps. Puis ça n'a pas été Dieu qui a dit cela. On s'est fait un Dieu à sa mesure. Mais regardez bien, maintenant nous sommes au verset 5. Après que Jude ait signalé qu'il était entré dans l'église des gens et qui changeaient la grâce de Dieu en dissolution, la sainteté de Dieu n'est plus reconnue, et qui renie, donc il n'y a pas que Pierre qui a renié, hein, qui renie notre seul maître et seigneur Jésus-Christ, ils ne le connaissent pas. Alors, dans ces versets, ces trois versets qui sont devant nous pour ce matin, je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses. Est-ce que vous les savez fort bien? Est-ce que nous savons fort bien toutes ces choses qui ont été mentionnées? Que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, quel peuple? Le peuple d'Israël. De quel pays? D'Égypte. Et d'avoir tiré du pays d'Égypte, puis ensuite périr les incrédules. Hein? Premier jugement. Vous savez, le jugement, il vient, on n'aime pas parler du jugement, mais il vient. Et il nous montre qu'il est déjà venu dans le passé. Hein? Israël a été sauvé, mais d'une manière magnifique. Souvenez-vous de cette première Pâque, quand l'ange destructeur passait sur les maisons, mais là où on avait obéi et où il y avait le sang, le fils aîné était épargné. Où il n'y avait pas le sang, le fils aîné devait mourir. Mais tous ces gens qui étaient là en Égypte, des adultes, eh bien, ils ont passé la mer Rouge, ils ont vu les délivrances successives de Dieu, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chaque fois qu'ils avaient une épreuve, au lieu de s'attendre au Seigneur pour une délivrance, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils murmuraient. Ça n'a été qu'une suite de murmures. Quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils ont vu l'armée du Pharaon les poursuivre, et devant eux la mer Rouge, ils se sont mis à murmurer. Hein? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas restés en Égypte? Toujours la crainte. Alors on crie à Moïse, et Moïse, conduit par le Seigneur, ouvre le chemin dans la mer. Il passe à travers la mer, les Égyptiens les suivent, et ils voient les eaux recouvrir les Égyptiens. Donc, ils sont délivrés en un instant de tous leurs ennemis. Mais, ils sont dans le désert. Au bout d'un certain temps de marche, ils ont soif. Il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Alors, au lieu de se dire, celui qui nous a délivrés des eaux de la mer peut nous donner de l'eau dans le désert, non, ils murmurent. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Moïse va vers le Seigneur, qui lui enseigne un bois. On jette le bois dans l'eau amère de Marah, elle devient douce, hein, et ils peuvent boire. Alors, au lieu de célébrer le Seigneur, eh bien, c'est naturel. Bon, Dieu leur a répondu. Et Dieu les conduit plus loin. Il les conduit à Élim, où il y a 70 palmiers et 12 fontaines. Là, ils ont tout ce qu'ils veulent. Puis après, il les amène au pied du Sinaï. Et là, les Israélites deviennent tout à fait prétentieux. Ils disent à Moïse, tout ce que Dieu te dira, nous le ferons. Ils ne connaissent pas eux-mêmes. Que Dieu nous donne une loi, et puis on fera ce qu'il nous dit. Mais il faut qu'il nous le dise. Et Dieu consent à leur donner une loi. Jusque-là, ils n'étaient pas sous la loi. Ils ne connaissaient que l'amour de Dieu qui les portait. Mais maintenant, non, ils veulent une loi. Et s'ils font cette loi, eh bien, alors ils seront bénis. Ils font donc dépendre la bénédiction de leurs actions. Comprenez-vous? C'est ça la loi. Si vous accomplissez la loi, vous serez bénis. Si vous ne l'accomplissez pas, alors vous aurez le jugement. Et ils ont la prétention de pouvoir accomplir la loi. Alors Dieu leur donne une loi, mais ils n'ont pas encore reçu que déjà ils ont oublié Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le veau d'or. Voilà la nature humaine qui est révélée. Ils ont fait le veau d'or. Alors que Dieu avait dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ils font le veau d'or. Puis il dit, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Un bœuf qui mange de la paille. Et alors, que leur est-il arrivé? Il y a une succession de murmures à un tel point que pas un de ceux qui étaient sortis d'Égypte à l'âge adulte, n'est entré dans le pays de Canaan, à l'exception de Josué et de Caleb, qui ont cru. Mais le jugement est tombé sur eux tous, en 40 ans, tous sont morts. Eux qui avaient dit, vous allez faire périr nos enfants, et qui est-ce qui est entré dans le pays d'Égypte? Qui est-ce qui a été sauvé? C'est les enfants. Vous comprenez aussi pourquoi j'ai souligné que les enfants étaient sauvés. Ils n'avaient pas dit non, eux. Ils n'étaient pas responsables. Les enfants, les petits-enfants sont sauvés, ils n'ont pas dit non. Alors, deuxième exemple de jugement. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par des ténèbres, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. C'est une affaire qui s'est passée, et que nous trouvons dans la Genèse, et qui a, en quelque sorte, provoqué aussi le déluge. Au chapitre 6 de la Genèse, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les anges sont appelés à bien des endroits les fils de Dieu, et leur mission c'est d'être au service de ceux qui doivent hériter du salut. Voilà des anges qui sont envoyés pour une mission et qui se met à convoiter les filles des hommes, oublie leur mission et se corrompt. Alors leur jugement est tombé sur eux. Verset 3, chapitre 6. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Les Gédéons étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Bien, nous sommes dans un temps comme celui qui précédait le déluge. Il y a des géants au point de vue intellectuel. Il y a des hommes extraordinaires qui ont fait toute espèce d'inventions. Mais si vous remarquez, la plupart de ces inventions, elles ont tout de suite été tournées vers le mal, pour détruire, que ce soit la bombe atomique ou tout le reste. Mais maintenant, on dit, mais c'est merveilleux et il faut nous adapter à tous ces moyens modernes. Bon, on vit dans ce monde. Mais mes amis, qu'est-ce qui vient? Dans ce temps-là, c'est pas Dieu qui est glorifié, c'est les hommes. On donne uniquement des prix à des hommes, et on nous dit que c'est grâce à cette science, c'est grâce à toutes ces inventions, qu'on va transformer le monde. Est-ce que c'est vrai, oui ou non? Est-ce que le monde va s'améliorer? Est-ce que nous allons vers la délivrance, vers un règne de paix? Oui, ils le veulent, hein. PP est sûreté. Ils croiront y arriver au temps de l'Antichrist. Quand toute la puissance de Satan sera donnée à un homme qui conduira un monde qui a renié Christ, qui ne veut plus de lui, qui a apostasié, eh bien, oui, ils croiront être arrivés. Et une subite destruction viendra sur eux. C'est pas un nouveau déluge, mais c'est les jugements que le Seigneur amènera à son retour. Car il est venu une première fois, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il reviendra une seconde fois pour juger. Parce que la justice, elle n'est pas dans ce monde, elle n'est pas manifestée. Et c'est pourquoi on dit, mais si Dieu était juste, mais on n'est pas dans le temps de la justice de Dieu. Jésus est venu pour justifier les pécheurs. Il a fait une œuvre qui justifie les pécheurs, mais il n'est pas venu pour apporter la justice. Il l'apporte dans le cœur, Mais dans le monde qui ne veut pas de lui, il n'y a pas de justice. Et c'est pourquoi sa justice va bientôt être manifestée. Maintenant, c'est le temps de la patience de Dieu. Si le pécheur n'est pas exterminé aujourd'hui, c'est parce que Dieu lui donne la possibilité de se convertir. Il lui donne la possibilité de changer de vie, de se donner au Seigneur. Mais pendant que Jésus règnera, bien la justice alors règnera. Mais le pécheur qui voudra se révolter dans ce temps-là sera immédiatement exterminé. La peine de mort sera là dans le règne millénaire. De sorte que les gens, même s'ils se soumettent pas par amour, ils se soumettront par crainte. Mais au bout de 1000 ans, ceux qui ne se seront pas soumis par amour et qui ne se seront pas convertis, toute cette génération des enfants qui vont naître dans le règne, ils devront se convertir. S'ils ne sont pas convertis, quand Satan sera délié, alors ils se révolteront après avoir connu 1000 ans de paix. Ce qui montrera bien que le cœur de l'homme ne change pas. Donc, souvenez-vous de cela. Les paroles du Seigneur auront leur accomplissement. Le jugement de Dieu viendra. Et on a un troisième exemple, après celui des anges. Même des anges sont jugés parce qu'ils ont abandonné leur propre demeure. La désobéissance des anges qui devaient servir auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, comme ces anges, à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Voilà. Trois jugements que vous pouvez contrôler par la parole et aussi par les faits historiques. Vous savez ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorre. Et vous savez quel était le péché de Sodome. Mais attention! C'était pas simplement comme on le pense toujours, l'homosexualité, oui, ça mène là. Mais relisez dans le Ézéchiel chapitre 16, verset 48. Je suis vivant, c'est donc le Seigneur ressuscité, dit le Seigneur, l'Éternel. Sodome, ta sœur, il parle à Israël. Sodome, ta sœur, et ses filles, n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Parlons d'Israël. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Voilà le premier péché. Elle vivait dans l'abondance. Deuxième péché. Et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles. C'était la Dolce Vita. Elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, elles ont commis des abominations devant moi, et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Quand j'ai vu cela, je les ai fait disparaître. J'ai lu ce matin que Dieu voyait du haut du ciel. Quand j'ai vu cela, je les ai fait disparaître. Et voyez-vous, dans le chapitre 1er d'Ésaïe, les chefs d'Israël, qui menaient donc le peuple de Dieu, ils sont appelés d'une façon incroyable. Verset 10 du chapitre 1er. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de bélier, de graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présentez devant moi, parce qu'on se présentait devant lui, on allait au temple. Qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens. Qu'est-ce qui avait donné l'ordre d'offrir de l'encens? C'est le Seigneur. C'était tous des ordres de Dieu, cela. Et on pratiquait encore cela. Mais le cœur n'y était pas. Ce qui faisait dire à Jésus quand il était sur la terre et qu'il voyait le temple, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Et c'est pourquoi ce matin, quand je me tenais devant Dieu, bien avant l'aurore, eh bien, c'est cette parole qui m'a été donnée et que je vous ai lue, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, c'est ce que j'ai à faire avant de m'en aller vers le Seigneur, auquel je devrais répondre de ce que j'ai enseigné. Je vous relis. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? On voudrait toujours bâtir de nouvelles salles, de nouvelles maisons pour le Seigneur. Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Mais qu'est-ce qui voudrait comme demeure? On l'a dit, c'est nos cœurs. Toutes ces choses, ces bâtisses, tout ça, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu de tout ce qu'il voit. Maintenant, de désobéissance au Seigneur, sur celui qui craint ma parole, c'est sur lui que je regarde. Puis, il dit ces choses incroyables. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Vous faites des sacrifices, mais si vous n'aimez pas votre sacrifice, c'est comme si vous tuez un homme. Même si vous immolez un bœuf. Celui qui sacrifie un agneau, qui est-ce qui a dit qu'il fallait sacrifier des agneaux? C'est le Seigneur. Mais vous pouvez sacrifier un agneau. Mais pour Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est comme quelqu'un qui romprait la nuque d'un chien. Or, les chiens, dans la parole, ont mauvaise réputation. Dehors sont les chiens, les fornicateurs. Donc, le Seigneur n'y est plus. Celui qui présente une offrande, c'est comme s'il répandait du sang de porc. Les porcs étaient exclus. Bien, vous voyez, c'est pas simplement faire une offrande, oh ben moi je fais une offrande, je suis en règle avec le Seigneur, j'ai donné pour le Seigneur. Mais comment est-ce que nous avons donné? Dans quel esprit est-ce que nous avons donné? Vous voyez que ça va loin, la seigneurie du Seigneur. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Et voilà, on s'est réjoui en son temps que les statues disparaissent des églises romaines. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Les idoles sont où? Dans les cœurs. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait les idoles. Vous entendez parler que des grands de ce monde, des vedettes, etc. Et même dans nos maisons, on voit nos jeunes subissant telle influence. Ce n'est pas le portrait de l'Angélus qu'on voit. C'est Marilyn Monroe ou d'autres, même s'ils sont morts. Et ça devient des idoles. Tout cela se complaise dans leur voix. Est-ce que c'est le chemin du Seigneur? Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Si vous prenez comme exemple tous ces gens-là, ça vit dans l'adultère, ça vit dans le péché, ça ne vit pas du tout comme le Seigneur, et puis ce sont nos amis, ce sont nos héros, ce sont ceux dont on parle, dont on s'entretient. Moi aussi je me complairai dans leur infortune, et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que là dans Jude on l'a lu, le jugement vient, parce que j'ai appelé, on a été appelé, hein, et qu'ils n'ont point répondu, est-ce qu'on a répondu? Parce que j'ai parlé, et ils n'ont point écouté. Or, on nous dit on écoute, oui, mais écouter c'est obéir. Jésus disait prenez garde à la manière dont vous écoutez. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. Est-ce qu'on se demande, est-ce que ça plaît au Seigneur? Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent, vos frères humains, qui vous repoussent à cause de mon nom. Si vous aimez vraiment le Seigneur et que vous portez son nom, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Vous voulez rendre témoignage, hein, que l'Éternel montre sa gloire. C'est comme quand Jésus était sur la croix. Qu'il le délivre, que Dieu le délivre, s'il tient à lui. Mais montrez-nous que vous avez le Seigneur. Puis alors, il semble que Dieu ne répond pas parce qu'il ne veut pas que nous puissions nous glorifier. Et que nous voyons votre joie. Que nous voyons votre joie. Voilà ce qu'il dit. Mais est-ce que vous êtes joyeux? Nous, nous avons le bonheur, nous avons tout ce que nous désirons, dans la drogue et ailleurs. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paye à ses ennemis leur salaire. Et alors, nous allons nous arrêter là. Mais je vous lis ce qu'on m'a donné ce matin. New York. Pour la première fois, des agents se trouvaient parmi les manifestants gays. Quelques 200 000 personnes ont défilé dimanche à New York sous la pluie pour la 27e édition de la parade de la fierté gay. Hein? Pas moi qui l'écris. À laquelle participaient pour la première fois des policiers homosexuels en grand uniforme, particulièrement applaudis. L'association des policiers homosexuels, Gay Officer Action League, GOAL, a en effet obtenu en fin de semaine du nouveau commissaire de la police de New York l'autorisation de participer officiellement à cette traditionnelle parade à travers le centre de Manhattan. Ironiquement, cette parade commémore la révolte de 1969 des clients du Stonewall, un bar homosexuel de Christopher Street, dans Greenwich Village, contre la police qui effectuait des raids réguliers. L'arsenal répressif de l'époque était très complet, puisqu'il interdisait, par exemple, au bar de servir des clients notoirement homosexuels. Sur le millier de membres du GOAL, une cinquantaine ont défilé, accompagnés de la fanfare, un droit qui leur confère la reconnaissance officielle de l'association. Depuis quelques années, des éléments du GOAL défilaient vêtus d'un discret t-shirt arborant un signe. Mais M. Saphir a au contraire exigé qu'il soit en grand uniforme. Devant le refus des autorités d'autoriser leur participation à la parade jusqu'à cette année, le GOAL a déposé en avril dernier une plainte pour discrimination qui est encore en cours d'examen. Le sida et les élections présidentielles américaines de novembre prochain étaient les thèmes dominants des pancartes revendicatrices résumé par les Gay Men, la plus importante organisation homosexuelle s'occupant de santé sous ce slogan, votez comme si votre vie en dépendait. Voilà ce qu'on peut lire aujourd'hui. Ça vous montre pas en quel temps nous sommes? Mais on ne veut pas croire qu'on est dans les derniers temps. Et pourtant que ce soit juste, comme nous le verrons, que ce soit Pierre ou que ce soit Jacques ou Paul, ils nous ont décrit que dans les derniers temps, il y aurait des jours mauvais. Mais on nous dit, mais il y a toujours eu des jours mauvais. C'est en entendant ça. Non. Il n'y a plus que le jugement pour arrêter cela. et le jugement vient. Mais avant le jugement, qu'est-ce qui doit disparaître? Parce qu'il n'y aura plus de place pour eux. C'est les chrétiens authentiques. Pas d'une église particulière, mais ceux qui, dans leur communauté, veulent tenir bon et n'admettent pas cette chose. Et croyez-le, pourquoi il est parlé de miséricorde? Parce que le témoignage, de plus en plus, il est individuel. Parce que quand vous voyez même des pasteurs qui bénissent des mariages homosexuels, vous ne pouvez pas les demander conseil à un pasteur. Quand on nous dit, mais partager sa femme avec une autre, c'est bien avec un autre. Parce qu'au moins, on n'est pas égoïste. On détruit le mariage. Et puis ceux qui ne font pas ça, ils sont égoïstes. Nous sommes dans les derniers temps. Alors je comprends pourquoi ça devient difficile et que le Satan voudrait nous paralyser. Ne dis pas ça, parle-leur d'autre chose. Dieu notre Père, nous voulons rester avec ta parole et nous en imprégner. Nous ne voulons pas avancer rapidement, mais nous allons nous arrêter sur chacun de ces textes et te remercier de nous avertir. Car si Jésus a parlé dès le début de son ministère, de sa souffrance, du rejet qui serait le sien, alors qu'il apportait des paroles de vie, de paix, de bonheur. S'il a parlé aussi de sa résurrection, nous savons que ces choses ont eu lieu. Il a été crucifié, il l'avait dit, mais il est ressuscité. Il l'avait annoncé. Et maintenant, nous savons qu'il est vivant, qu'il est à la droite de Dieu, et qu'il a dit, je reviendrai. Alors, nous voulons te demander que tu nous sensibilises à cette parole que ton retour est proche. Et qu'avec l'esprit et avec l'épouse, t'es racheté qui t'aime et qui reconnaît sa seigneurie, nous puissions dire d'un même cœur, viens, Seigneur Jésus, réveille-nous, sanctifie-nous et prépare-nous pour la rencontre de ce soir. Bénis les enfants. Nous te demandons de tout notre cœur et prépare-nous aussi pour cette réunion des enfants lorsque tu avais 30 ans. Et que tu aies été baptisé. Que ta grâce nous soit donnée pour cette heure. Dans ton amour. Amen.